Chapitre 3. Le Mont Destin. Sam posa sa cape d'or en lambeaux sous la tête de son maître et il les couvrit tous deux du manteau gris de la Lorienne. Et comme il le faisait, ses pensées se reportèrent vers ce beau pays et vers les elfes, et il se prit à espérer que le drap tissé de leurs mains eut quelque vertu qui, contre toute attente, puît les tenir cachés dans ce désert de peur. Il entendait mourir les cris et le son des échauffourées à mesure que les troupes entraient dans la gueule de fer. Dans la confusion et l'affluence de nombreuses compagnies de diverses sortes, leur absence semblait être passée inaperçue, pour le moment du moins. Sam prit une petite gorgée d'eau, mais il pressa Frodo de se désaltérer, et quand son maître fut un peu remis, il lui donna toute une gaufrette de leur précieux pain de route et la lui fit manger. Puis, épuisés au point même de ne plus avoir tellement peur, ils s'étirèrent. Ils dormirent par à-coups et d'un sommeil inquiet, car la sueur se refroidit sur eux, les pierres dures leur entamaient la chair, et ils frissonnaient. De la Porte Noire au nord et le long de Kilid Gorgor, un flot d'air froid et vaporeux courait en murmurant le long du sol. Une lumière grise ressurgit au matin, car le vent d'ouest balayait encore les régions supérieures. Mais au ras des pierres, derrière les défenses du pays noir, l'air semblait presque mort, glacé et suffocant à la fois. Sam jeta un coup d'œil hors de la fosse. Les terres alentour étaient mornes et planes, ternes et grises. Plus rien n'avançait sur les routes voisines. Mais Sam craignait les regards vigilants sur les murs de la gueule de fer à un furlong vers le nord tout au plus. Debout au sud-est, comme une ombre noire et lointaine, se tenait la montagne. Des fumées s'en déversaient, et cependant qu'une partie gagnait les airs supérieurs et formait une longue traînée vers l'est, de grandes vagues de nuages déferlaient sur son cône et s'épandaient sur le pays. À quelques milles au nord-est, les contreforts des montagnes de cendres s'alignaient comme des spectres gris sombres, au dos desquels se dressaient, telle une frange de nuages lointains, à peine plus sombres que le ciel pesant, les hauteurs brumeuses de la chaîne septentrionale. Sam tenta d'évaluer les distances et de décider quel chemin il devait prendre.
« Ça m'a tout l'air de 50 000 au bas mot !»
marmonna-t-il d'un air sombre, les yeux fixés sur la menace de la montagne.
« Et ça, c'est une semaine et pas un jour de moins, avec Monsieur Frodo arrangé comme il est !»
Il secoua la tête, et comme il s'employait à calculer, une pensée funeste se dessina lentement dans sa tête. L'espoir ne s'était jamais longtemps éteint dans son indéfectible cœur, et jusqu'à présent, il avait toujours eu égard au voyage de retour. Mais la cruelle vérité le frappa enfin de plein fouet. Au mieux, leurs provisions les conduiraient au but, et une fois leur mission terminée, ils trouveraient leur fin, seuls, sans abri, sans nourriture, au milieu d'un terrible désert. Il ne pouvait y avoir aucun retour.
C'était donc ça la tâche que je sentais devoir accomplir quand je suis parti,
pensa Sam.
Aider M. Frodo jusqu'au dernier pas et mourir avec lui? Eh bien, si c'est ça, je dois le faire. Mais comme je voudrais revoir Bello, Rosie Casbonne et ses frères, et l'ancêtre, et Bouton d'Or et les autres. Que Gandalf ait pu embarquer M. Frodo dans cette histoire, sachant qu'il n'y avait pas d'espoir qu'il revienne, ça me rentre pas dans la tête. Tout est allé de travers du moment qu'il est tombé en Moria. Si seulement il avait pu en réchapper, il aurait fait quelque chose.
Mais tandis que l'espoir s'éteignait en lui, ou paraissait s'éteindre, il se changea en une nouvelle force. Son visage ordinaire de hobbit prit un air sévère, presque sinistre, tandis que sa volonté se durcissait en lui, et il sentit dans tous ses membres une sorte de frémissement, comme s'il se transformait en une créature de pierre et d'acier que le désespoir ne pouvait atteindre, non plus que la fatigue, ni les milles infinies du désert. Fort d'un nouveau sens du devoir, Sam ramena les yeux vers les environs immédiats, considérant la prochaine étape. La lumière croissait peu à peu, et il fut surpris de constater que la plaine qu'il avait perçue de loin comme une vaste terre uniforme était en fait un pays inégal et tourmenté. En effet, toute la surface des plaines du Gorgoroth était criblée de trous, comme si, du temps où elles n'étaient encore qu'une étendue de fange, elles avaient reçu une grêle de flèches et de projectiles. Les plus grands de ces trous étaient ceinturés par des arêtes de roches brisées, et de larges fissures en partaient dans toutes les directions. C'était un pays où il serait possible de fuir d'une cachette à l'autre, à l'insu de tous les regards hormis les plus attentifs. Possible du moins pour qui était fort et ne connaissait pas l'urgence. Pour des voyageurs affamés et épuisés, avec une longue route à faire avant que la vie ne s'éteigne, il avait un aspect sinistre. Avec toutes ses pensées en tête, Sam retourna auprès de son maître. Il n'eut pas à le réveiller. Frodo était étendu sur le dos, les yeux ouverts, fixant le ciel nuageux.
« Bon, monsieur Frodo, » dit Sam, « j'ai examiné les environs et j'en ai profité pour réfléchir un peu. Il n'y a personne sur les routes et on ferait mieux de s'éloigner pendant qu'on peut. En êtes-vous capable ?»«
Oui, j'en suis capable, » dit Frodo.
« Il le faut. »
Ils repartirent une nouvelle fois, rampant de creux en creux, volant d'abri en abri, mais toujours se dirigeant en oblique vers les contreforts de la chaîne septentrionale. Toutefois, tandis qu'ils avançaient, la route la plus à l'est ne cessait de les suivre, avant de s'écarter pour mieux serrer la lisière des montagnes loin devant eux, dans un mur d'ombre noire. Ni homme ni orque ne foulait plus sa surface grise et unie, car le seigneur sombre avait presque achevé ses mouvements de troupes, et même dans l'enceinte de son propre royaume, il recherchait le couvert de la nuit, craignant les vents du monde qui s'étaient retournés contre lui, arrachant ses voiles, et préoccupé par les rumeurs d'intrépides espions ayant passé ses défenses. Les hobbits franchirent quelques pénibles milles avant de s'arrêter. Frodo semblait presque à bout de force. Sam vit qu'il ne pourrait pas continuer longtemps de cette manière, tantôt à quatre pattes, tantôt plié en deux, suivant ici un chemin incertain et fastidieux, trébuchant là dans une course précipitée.
« Je retourne sur la route pendant qu'il y a encore de la lumière, monsieur Frodo, » dit-il. « Tentez de nouveau notre chance. Elle nous a presque lâchés la dernière fois, mais pas complètement. Un bon pas pendant quelques milles encore, puis repos. »
Il prenait un risque beaucoup plus grand qu'il n'en avait conscience. Mais Frodo était trop préoccupé par son fardeau et par sa lutte intérieure pour discuter et presque trop désespéré pour s'en soucier. Ils montèrent sur la chaussée et se traînèrent le long de la route, dure et cruelle, celle-là même qui menait jusqu'à la tour sombre. Mais leur chance tint bon, et tout le reste de cette journée, ils ne rencontrèrent nulle chose vivante ou animée. Et quand la nuit tomba, ils se fondirent dans les ténèbres du Mordor. Tout le pays ruminait comme dans l'attente d'une énorme tempête, car les capitaines de l'Ouest avaient passé la croisée des routes et incendié les funestes prairies d'Imlad Morghul. Le voyage désespéré se poursuivit de semblable manière, tandis que l'anneau descendait au sud et que la bannière des rois montait vers le nord. Pour les hobbits, chaque jour, chaque mille était plus difficile que le précédent, tandis que leurs forces s'épuisaient et que le pays se faisait plus magnifique. Ils ne voyaient aucun ennemi de jour. Parfois, la nuit, alors qu'ils se terraient ou sommeillaient avec inquiétude dans quelques cachettes en bordure de la route, ils entendaient des cris et le bruit de nombreux pas, ou la course précipitée d'une monture cruellement surmenée. Mais de tels dangers paraissaient dérisoires en regard de la menace qui les martelait et ne cessait de s'approcher. La terrible menace du pouvoir qui attendait, tout absorbé dans ses réflexions et sa malveillance toujours en éveil, derrière le sombre voile entourant son trône. Elle se faisait toujours plus proche, se dressait de plus en plus noire, comme l'apparition d'un mur de nuit aux derniers confins du monde. Vint enfin un terrible soir. Et alors même que les capitaines de l'Ouest voyaient la fin des terres vivantes, les deux voyageurs vivaient une heure de profond désespoir. Quatre jours s'étaient écoulés depuis qu'ils avaient échappé aux orques, mais le temps s'étendait derrière eux comme un rêve toujours plus obscur. Frodo n'avait pas parlé de toute cette journée-là. À demi courbé, il trébuchait souvent dans sa marche, comme si ses yeux ne voyaient plus la route à ses pieds. Sam devinait que, de toute leur souffrance, il endurait la pire, le poids croissant de l'anneau, un fardeau pour le corps et un tourment pour l'esprit. Avec grande inquiétude, Sam avait remarqué la façon que son maître avait de lever souvent la main gauche, comme pour se garder d'un coup, ou protéger ses yeux à demi fermés d'un œil redoutable, cherchant à y regarder. et parfois sa main droite venait se crisper sur son sein. Puis, comme la volonté reprenait le dessus, elle se retirait. Or, tandis que retombaient les ténèbres nocturnes, Frodo était assis, la tête entre les genoux. Ses bras pendaient avec lassitude jusqu'au sol où reposaient ses mains, secouées de faibles spasmes. Sam resta à l'observer jusqu'à ce que la nuit les recouvrit tous deux et que l'un fût caché à la vue de l'autre. Il ne trouvait plus rien à dire, aussi se tourna-t-il à son tour vers ses sombres pensées. Lui-même avait encore des forces, malgré sa fatigue et l'ombre de peur qui pesait sur lui. Le Lembas possédait une vertu indéniable, sans laquelle il se serait laissé mourir depuis longtemps. Il ne satisfaisait pas l'appétit, et Sam était parfois hanté par des souvenirs de nourriture et par des envies de pain et de viande ordinaire. Mais le pain de route des elfes avait un effet d'autant plus puissant que les voyageurs se reposaient entièrement sur lui sans le mêler à d'autres aliments. Il nourrissait la volonté et donnait une force d'endurance et une maîtrise des nerfs et des membres bien au-delà de celle des mortels. Mais pour l'heure, il fallait à nouveau décider. Il ne pouvait suivre cette route plus longtemps, car elle continuait vers l'est, vers la grande ombre. Du reste, la montagne se dressait à présent sur leur droite, presque plein sud, et il devait prendre cette direction. Mais il s'étendait encore devant elle une vaste région de terres arides et fumantes, couvertes de cendres.
« De l'eau !» marmonnait Sam.
Il s'était privé, et, dans sa bouche desséchée, il sentait sa langue épaisse et gonflée. Mais malgré toutes ses précautions, il ne leur en restait que très peu. Peut-être la moitié de sa gourde, et il pouvait avoir encore des jours à marcher. Elle eût été vide depuis longtemps s'il n'avait pas osé suivre la grande route. Car de loin en loin, des citernes y avaient été construites à l'usage des troupes dépêchées à travers les régions sans eau. Au fond de l'une d'elles, Sam avait trouvé un vieux reste d'eau, croupi, rendu trouble par les orques, mais encore passable au vu de leur situation. Or, cela faisait déjà un jour. Il n'y avait pas d'espoir d'en trouver davantage. Enfin, brisé par tant de soucis, Sam se mit à somnoler sans plus penser au lendemain. Il ne pouvait rien faire de plus. Entre veille et sommeil, des rêves troublants le visitaient. Il voyait des lumières semblables à des yeux cruels et des formes noires aux mouvements furtifs, et il entendait des sons rappelant des bêtes sauvages ou les cris atroces d'êtres torturés. Et il se réveillait en sursaut pour s'apercevoir que le monde alentour était entièrement sombre, peuplé de ténèbres vides. Une fois seulement, comme il se levait et jetait autour de lui des regards effarés, crut-il apercevoir, même réveillé, de pâles lumières semblables à des yeux. Mais bientôt elles clignotèrent et disparurent.